Mais gars, on a le temps de prendre notre temps. La vie est belle. On a chanté, on a loué le Seigneur. Et là, on s'en va dans la parole, dans Matthieu 26. On va juste lire les versets de la première section. On va terminer le chapitre 26, vu que c'est quand même un texte assez long. On va commencer juste avec la première section. On est dans notre série dans Matthieu, où est-ce qu'on considère l'ensemble du chapitre, verset par verset, ou section par section. C'est pas qu'on regarde, aujourd'hui on est au troisième mot du verset 17, là quand même, c'est peut-être pas aussi en profondeur que ça, mais ça nous donne une bonne saveur de ce qu'il y a dans cet évangile. Et donc, on va lire à partir du verset 47 et on va s'arrêter au verset 56 pour l'instant, mais on va voir les autres à travers le message. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze. Là, je vous rappelle ce qu'on a vu l'avant, là, c'était le jardin de Gethsémané, vous n'avez donc plus prié une heure avec moi. Okay? Donc, l'agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Donc, comme il parlait encore, ça c'est Jésus, voici Judas, l'un des douze, arriva, avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyé par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» et lui donna un baiser. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors les gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui était avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Ça, c'est Pierre, pour ceux que ça intéresse. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. On a ici un passage où on commence à considérer vraiment, on s'approche de plus en plus de la croix, la tension est à son apogée. La trahison de Judas qu'on vient de lire, l'abandon par les disciples de Christ. Mais j'aimerais qu'on voit comment tout ça, puisqu'on va voir aussi jusqu'à la fin du chapitre, c'est vraiment l'accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe 53. Puis on sait, Ésaïe 53, c'est le serviteur de l'Éternel qui sauve. C'est vraiment une prophétie sur la croix, puis l'œuvre de la croix dans Ésaïe 53. Et vraiment, on voit son accomplissement ici, littéral, à plusieurs égards. Donc, cette prophétie de l'Ancien Testament, on la voit accomplir ici, dans beaucoup de manières, dans ce texte du Nouveau Testament, qui est au cœur de la Passion. Et donc, le message, ça va simplement faire le parallèle entre la prophétie d'Ésaïe 53 et son accomplissement ici dans notre texte de Matthieu 26. Donc, trois accomplissements prophétiques par rapport à celui qui, c'est le titre de mon message, qui était méprisé et abandonné des hommes. D'ailleurs, avec le message, les versets qu'on a lus, on peut résumer ça par Ésaïe 53:3. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Remarquez comment Jésus, avec ce qu'on vient de lire, résume ce qui est arrivé avec cette déclaration au verset 55 et 56. À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus après moi comme un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi. » Jésus a été mis au rang des malfaiteurs. Il dit, vous m'avez traité comme un brigand, comme vous venez avec des épées, comme si j'étais... Jésus a littéralement été mis au rang des malfaiteurs, comme ça dit dans Ésaïe 53, 12. Et d'ailleurs, il y en a un qui a tiré l'épée. Ça faisait partie de tout ça, OK? Et c'était de ceux qui étaient autour de lui et aussi auprès de lui, Judas lui-même, qui l'a livré. Mais aussi, quand on voit le verset 56, c'est la prophétie de Christ lui-même qui s'est accomplie. Il dit « Tout cela arrive afin que les écrits soient accomplis. » On a vu Ésaïe 53, 12, puis d'autres passages des Écritures. Mais aussi, ça nous dit à la fin du verset 56, « Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Ça, c'est Jésus qui l'avait annoncé au verset 31. Il dit au verset 31, « Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Donc, c'est la prophétie que Jésus avait rappelée, qui avait lui-même déclaré, qui s'accomplissait ici. Maintenant, j'aimerais qu'on voit ici quelque chose de très important. Christ a été mis au rang des malfaiteurs. On voit ici Jésus dans son incarnation qui s'identifie à nous dans nos pires moments. Ça, c'était le pire moment pour les disciples. C'est-à-dire, eux qui se pensaient là, que ça allait bien aller, ça a été au pire du pire. Pierre qui a sorti son épée, ça n'a pas bien viré non plus. Ils ont tous fini par s'en aller. Mais Jésus s'identifiait à eux. Il a été au nombre des malfaiteurs. Au pire des moments, sous notre pire angle. Tu sais, des fois, on veut se mettre plus beau de ce bord-là. Ben là, il était vraiment de l'autre bord avec le gros bouton ici, là. Puis, Jésus est venu nous délivrer comme ça. Puis là, je ne veux pas faire de blague parce que c'est quand même sérieux ce qu'on dit, mais il est venu nous délivrer de la honte. Il y a une honte au péché. Ici, il y avait une honte. Pierre, il n'était pas fier de lui. Là, on peut voir, il y a le reniement qui vient, puis... Tu sais, puis toutes les. Ils ont dû partir quand ils sont arrivés chez eux, ils devaient pas trop filer bien. Il y avait cette honte. Et Jésus s'est identifié à ça, mais Jésus venait les délivrer de la honte pour leur redonner la valeur qu'ils avaient en tant qu'enfants de Dieu rachetés. Jésus, par son expiation est venu leur redonner de la valeur. C'est ça l'ultime bénéfice. De la rédemption, du rachat par le sang de Christ. Dieu nous a rachetés pour lui-même, nous a donné une valeur incroyable à ses yeux à cause du sacrifice de Christ. Maintenant, ça nous amène à poser cette question qui n'est pas banale. Qu'est-ce que tu utilises dans ta vie pour te donner de la valeur? Les substituts du monde comme le statut social, l'argent, les apparences. Ça, c'est ce que le monde utilise. Ça, c'est juste deux, trois petits exemples, mais le monde prend ça pour dire « j'ai une valeur ». Ou peut-être qu'on peut inverser la question et dire « qu'est-ce que tu considères comme t'enlevant de la valeur? » Ta personnalité, t'es quelqu'un de plutôt beige, tu sais, que t'es pas le... Ou tu sais, ton passé, les choses que t'as faites, tes échecs, des relations. Qu'est-ce qui te donne de la valeur? Puis avec quoi tu laisses ces choses aussi t'enlever de la valeur? Mes amis, toutes ces choses passent à côté de l'une des plus grandes bénédictions de l'incarnation. Jésus s'est identifié à nous. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il s'est identifié à nous dans notre péché, dans notre honte. Puis c'est encore allé bien plus loin que ça parce qu'il a pris part à ces moments-là, mais pas en les subissant. Puis pas en ayant lui-même ce que son péché aurait mérité, parce qu'il n'a jamais péché, mais il a plutôt pris part en triomphant de ça, donc en nous donnant de l'espérance qu'il est capable de faire quelque chose avec même les pires situations. Il s'est identifié à nous, mais aussi il s'est identifié en tant que celui qui est la délivrance, l'espérance dans ses pires moments. Tout comme il fallait, c'était écrit. Il fallait que tous ici passent par là. Et c'était pas des moments glorieux. Mais ça faisait partie des plans souverains et oui, bienveillants de Dieu. Pour qu'ainsi, il découvre vraiment qui il était. Parce que, on se rappelle, on l'a vu avec Pierre, hein? Quand même, tous te renieraient, moi je te renierais. Ouais, Pierre, t'es plus faible que tu penses. Il a découvert qui il était, mais aussi qu'il découvre qui Dieu est vraiment. Pas selon ce qu'il pouvait s'imaginer de Dieu, mais qui il est vraiment. Et je pense que Pierre, pour reprendre son exemple, lorsqu'il a croisé ce regard, après avoir renié Jésus, il a découvert quelque chose de Dieu qu'il ne connaissait pas. De la grâce de Dieu, de sa miséricorde, qu'il a dû complètement le jeter à terre. Et donc, ce n'est pas un exercice théorique. Dieu voulait qu'en voyant qui ils étaient réellement et qui il est lui réellement, qu'il trouve du réconfort. qui trouvent un baume pour leur cœur, qui allait leur permettre, malgré la laideur de leur péché, la laideur de leur situation, la honte qu'ils avaient pu éprouver, que Dieu était sur le point de révéler quelque chose qui était des plus précieux et merveilleux sur lui-même. Et c'était ça leur trésor. Dieu se révélait à eux. Et c'est la meilleure chose vraiment qui puisse nous arriver. Que peu importe c'est quoi qui arrive, que Dieu se révèle. Et savez quoi? La plus grande révélation ici, c'est la croix. Dieu a triomphé, fait que c'est l'ultime révélation de Dieu, de son œuvre, de qui il est. Ça nous amène au deuxième accomplissement prophétique. Non seulement ici, il a été mis au rang des bienfaiteurs, il y a cette identification, mais aussi dans les versets 57 à 68 qu'on va lire, il a été semblable à un agneau. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Je vous lis Ésaïe, ensuite on va lire le texte. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Lisons versets 57 à 68. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vit deux qui dirent, « Celui-ci a dit, « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. » Le souverain sacrificateur se leva et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et là, Jésus ouvre la bouche et répondit, « Tu l'as dit, de plus je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous ensemble? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, lui donnèrent des coups de poing, des soufflets, en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Voyez-vous, je relis Ésaïe 53:7. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et il n'a point ouvert la bouche. La fois qu'il a ouvert la bouche, allez voir, c'est significatif. Donc, c'est le deuxième accomplissement prophétique ici. Il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche devant ce tribunal. En anglais, on dit un kangaroo court. C'est une risée. C'était un tribunal. Ça ne peut pas s'appeler un tribunal. Je vais vous dire pourquoi. De par leur propre loi, le Sanhédrin, puis la loi de Dieu, ils ont eux-mêmes enfreint leur propre loi avec cette parodie de tribunal. D'abord, il était illégal de siéger la nuit. Ça se passe la nuit. Il était illégal de prononcer une sentence la journée même où la personne est arrêtée. Jésus a sa sentence la journée même où il est arrêté. Aussi, les personnes qui le poursuivent en justice sont les mêmes qui ont comploté son arrestation puis sa mise à mort. C'est évident que c'est un conflit d'intérêts. Puis au verset 61, ça dit, celui-ci dit, « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. » C'est une fausse accusation. Puis ça, en plus, souvent, ça nous dit dans d'autres évangiles, ça ne s'accordait pas. Puis ce n'était pas exact, parce que Jésus avait dit « Je puis ». C'est-à-dire, Jésus n'avait pas dit « Je vais détruire ce temple », mais dit « Mais détruisez ce temple, puis je vais le rebâtir ». Jésus n'est pas le destructeur, il est le constructeur. Et on a ça d'ailleurs, écoutez, je vais vous donner une référence parallèle dans Actes 6. C'est ici. Excusez, m'a trouvé mes aises là. Où suis-je? Ah, point numéro 2, c'est ça, excusez. Non, c'est pas grave, je me suis pratiqué, mais ça paraît pas. Ils produisirent des faux témoins et dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Ça, c'est avec Étienne, OK? Puis, regardez ce qu'ils disent en accusant Étienne, puis sur Jésus, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. D'une façon, on peut dire que c'est lui qui a détruit, parce que c'était le jugement de Dieu de faire venir Tite, qui a la destruction de Jérusalem et du Temple en 70 après Jésus-Christ, mais c'était de leur propre, c'était leur propre projet qui les a perdus. C'est eux, ayant rejeté leur Christ, qui ont attiré ce jugement sur eux-mêmes. D'ailleurs, ils l'ont demandé que le sang, que son sang retombe sur nos têtes. Dieu leur a demandé exactement, leur a donné exactement ce qu'ils ont demandé. Puis on sait aussi que Jésus, quand il parlait du temple, il parlait du temple de son corps. Et donc, c'est ça, pour le tribunal. Mais ce qu'on peut retenir avec cette risée de tribunal, y a-t-il une traduction pour Kangaroo Court? Tu sais, un tribunal... Ça se dit-tu en français? J'ai l'échec. Non, je pense pas. Hein?
Un tribunal fantoche.
Fantoche, merci. Oh, merci, monsieur, là. Ça sonne français, votre affaire. Un tribunal fantoche, là. OK, excellent. C'est très bon. Merci, Louis. Donc, ce tribunal fantoche nous rappelle qu'il n'y a pas de justice dans ce monde, n'est-ce pas? Puis que s'il y a de la justice, elle est corrompue. Ça se peut-tu que j'ai plus à charge, c'est pareil, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Mais le point à retenir ici, avec Jésus qui était semblable à un agneau, qui n'a pas ouvert la bouche, il n'avait pas à parler pour se défendre, parce que lui-même est la justice incarnée. Et il est notre justice, il est venu accomplir la justice de Dieu, qui était totalement absente ici-bas, mais lui est venu l'apporter, l'accomplir. Il n'avait pas besoin de parler devant des gens qui disaient n'importe quoi de même. Il était lui-même l'incarnation de ce qu'eux autres ne comprenaient même pas. Et au verset 64, lorsqu'il ouvre la bouche, Jésus répondit, tu l'as dit, de plus je vous déclare que vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Ici, on peut référer, on peut avoir deux références parallèles, le psaume 110 et le verset 1 qui nous dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Puis aussi Daniel 7, 13 et 14, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arrivant quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit s'approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et tous les hommes, toutes les langues le servirent. Ça, c'est pas juste un ange, là. Ça, c'est OK. C'est... Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Puis on pourrait donner toutes sortes d'autres références, mais l'idée, c'est vraiment que Jésus déclarait ça, son autorité suprême, sa suprématie absolue. Et c'est la seule parole que Jésus a adressée à ses criminels, parce que c'était pas lui le criminel, c'était eux les criminels. Et c'était pour leur montrer, si vous voulez, leur révéler le contraste entre ce qu'eux autres voyaient en lui, ils voyaient un coupable en Jésus, versus la réalité, il était leur juge. Il était celui qui allait venir et de qui eux allaient devoir rendre des comptes. C'était complètement inversé. Les autres, ils se pensaient au tribunal, puis on juge le coupable. Jésus avait juste la parole qu'il a dit, il a complètement viré les choses de bord. Vous êtes les coupables, puis je vais revenir, puis vous allez rendre des comptes. Amen. C'est la seule chose qu'il avait à dire, parce que les fausses accusations, c'était tout mensonger, il n'y avait rien à dire là-dessus. Mais quand il a parlé pour s'identifier, oui, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui à qui tous vont rendre compte. Et donc, ils étaient coupables devant lui, ce roi suprême, et le temps du jugement devait venir et devait tomber sur ces gens qui croyaient qui étaient tous corrects. Et ce qui est ironique, c'est que eux qui croyaient que l'heure de son jugement était arrivée, leur jugement allait tomber bientôt. Bon, leur jugement éternel avec s'ils sont pas confiants en lui, mais aussi le jugement est tombé en 70 après Jésus-Christ. Mais juste ici pour vous donner... Je crois qu'on voit là-dedans une image du contraste entre la pensée du monde et la pensée de Christ. Et par la grâce de Dieu, par la grâce d'avoir été transformé par le renouvellement de notre intelligence, Dieu nous ramène à la pensée de Christ, à la pensée régénérée. Notre part, c'est de s'en nourrir. Si vous êtes ici, vous avez la pensée de Christ. C'est Christ qui l'a planté en vous. C'est la pensée de Christ, c'est pas la nôtre. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, on a la pensée de Christ. Et maintenant, c'est de la nourrir, d'y prendre plaisir, de s'y identifier. Hein, je suis en Jésus-Christ. Mon identité est ce que Dieu a fait de moi. Me l'approprier en l'acceptant. Pas en vivant par les mensonges de mes pensées. Ah, j'ai toujours été de même. Il n'y a rien à faire avec moi. Il n'y a rien à faire avec ci et avec ça. Non, vraiment, c'est cette pensée de Christ qu'on est appelé à nourrir, puis ça fait absolument toute la différence pour nos vies lorsqu'elle est nourrie par la parole, la prière, la louange, la communion fraternelle, la marche par la foi. Et là, on va discerner. Savez-vous que Romains 12, 2, c'est un verset sur le discernement spirituel. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez, que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça nous amène au troisième point, la troisième prophétie accomplie. Et je vais faire comme j'ai fait tantôt, je vous lis d'abord la prophétie dans Ésaïe, au verset 53, verset 6. « Il a porté nos iniquités. » Ésaïe 53, 6, ça dit « Nous étions tous errants comme des brebis. » Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a porté nos iniquités. On va relire les versets 69 à 75. Puis vous allez voir comment je vois l'accomplissement prophétique là-dedans. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Savez-vous que ce moment le pire dans toute la vie de Pierre, le plus humiliant, le plus bas, Christ a payé pour. Il a été enfoui dans la mer de l'oubli, lavé dans le sang de l'agneau. Je pense que ça l'a donné, ça a dû faire, on dit, « make my day », là. Ça a dû faire une ou deux journées pour Pierre, juste ça, là. Et je vous lis Ésaïe 53, 8, « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru? » C'est vrai, du temps de Jésus, il n'y en a pas beaucoup qui ont cru. « Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? » Jésus a dû être frappé pour que nous puissions ne pas subir la colère de Dieu. Là aussi, on voit l'identification de Jésus, mais ici, avec le rejet. Pierre ici, ce qu'il vivait là, il était rejeté parce qu'il appartenait à Jésus. Et bon, sa réaction, c'était trop pour lui là. Ok, c'était. Puis on le voit là, il a violemment lui-même rejeté ça. Il a rejeté le rejet causé par tout le monde. Puis quand ça dit aussi au verset 69, ça dit, je sais pas si vous avez remarqué la subtilité, mais c'est toi aussi. Je pense que ça suggère, toi aussi, ça peut être toi et Jésus, mais on apprend aussi dans Jean 18 que il y avait un autre disciple qui était avec Jésus. Selon ce qu'on peut comprendre, c'était Jean, le disciple que Jésus aimait. Et donc, toi aussi, il n'était pas tout seul, mais disons que c'est lui qui a eu la plus forte conviction de qui il était justement. Mais je pense qu'il y a aussi un goût inouï de qui Dieu est. Avec ce fameux regard. Je ne sais pas si tu vas avoir un replay là-dessus au ciel. Le regard. Moi, j'achèterais le ticket, là, aller voir le film Le regard de Jésus avec Pierre. C'est pas un long film, là, mais j'aimerais ça le voir. Il doit y avoir quelque chose dans ce regard-là. C'est un regard de restauration, c'est un regard d'espoir, d'espérance. Parce que Pierre aimait le Seigneur. Mais il y avait un amour frêle, vacillant. Voir des fois qu'il m'a insensé. Mais non, qu'est-ce que tu fais avec ton épée devant une cohorte de même Pierre? Et tu penses qu'il aimait vraiment Dieu, mais là, tu sais, ça avait juste pas de bon sens, là. Mais c'est un amour authentique. Il aimait Dieu. Pas autant qu'il aurait pensé, mais il l'aimait. Mais je veux juste donner quelques leçons ici, ce qu'on voit sur l'amour avec Pierre, comment il y a eu une dégradation, puis comment ça l'a permis aussi, parce que Jésus, on l'a vu dans le message avec Pierre, la chose sur laquelle il a questionné, « M'aimes-tu? Pierre, toi, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? » Il l'a questionné sur ça, sur l'amour, sa relation avec Dieu. Mais ici, on voit, avec ce qu'on a lu, on voit l'amour curieux, mais qui prend de la distance. Parce que comme dans le psaume 1, Pierre marche avec les méchants, selon le conseil des méchants, il s'arrête sur la voie des pécheurs, puis il s'assied en compagnie des moqueurs. Puis ça va pas bien pour lui. Fait que c'est le déclin de l'amour. Mais on voit aussi que l'amour est mis au défi, où l'amour de Pierre est criblé par Satan comme le froment. Puis Pierre a négligé, n'a pas cru aux avertissements de l'amour de Dieu qu'il avait. D'ailleurs, Jésus avait dit, Satan va vous réclamer comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Donc l'amour a été mis au défi. Et malheureusement, il n'a pas passé le défi. Mais aussi, on voit l'amour qui se souvient et qui est contrit. Oui, il a été humilié. C'est l'humiliation de l'amour. Il s'est rendu compte comment il n'est pas si fort qu'il pensait cet amour qu'il avait pour le Seigneur, même s'il aimait le Seigneur. Mais aussi, surtout, la victoire de Jésus-Christ dans la vie, dans le cœur de cet homme qui a appris. Oui, après à la façon dure. Peut-être que les têtes dures vont apprendre plus à la façon dure. Mais après, on l'a vu la semaine passée, notre frère nous a partagé un message au complet sur le fait, dans Matthieu 10, 28, il dit « Le Seigneur m'a appris. » Il était enseignable, il a laissé Dieu le façonner. Puis enfin, on voit par là que Jésus-Christ a permis à Pierre de participer à ses souffrances. Le rejet que Jésus vivait, qui était infiniment plus grand, Pierre y a goûté aussi. Puis je pense qu'il a donné une appréciation de ce que Christ est en train de faire. Vous dites, Dieu faisait quelque chose pour se révéler. Oui, il révélait à Pierre qui il était, mais il révélait aussi qui il était puis ce qu'il faisait. Et Pierre était aux premières loges de ça. Parce que lui aussi a été méprisé, abandonné des hommes. Puis il a appris du même coup à quel point il n'était pas suffisant pour ces choses, Pierre. Mais comment Dieu était toujours là. Au moment où est-ce qu'il a fait sa dernière imprécation. Imaginez-vous, là, il a demandé la colère de Dieu, que Dieu me juge dans toute sa rigueur. Je ne connais pas cet homme. C'est loin de « je ne le connais pas », c'était fort. Là. Jésus a tout de suite, il a rencontré son regard pour le relever. Dans son cœur, c'était le point de la grâce. Juste comme il était sur le bord du précipice, la main de Dieu est là, puis il l'a rattrapé. C'est comme ça que Pierre a expérimenté la grâce de Dieu dans le pire moment de sa vie. Et je vous dis, il devait être vraiment émerveillé du Dieu qu'il apprenait à connaître. Mes amis, quel texte béni et précieux on a considéré aujourd'hui pour nous apprendre à voir. On a tous ces moments-là où le Seigneur nous humilie, n'est-ce pas? On n'aime pas ça, on disait ce matin, on aimerait savoir une vie, pas de problème. Vous savez que ça vient de Dieu, ça, parce qu'on est créé pour ça. Au commencement, c'était comme ça, c'était une vie pas de problème. Puis notre cœur, notre âme aspire à ça parce que c'est le modèle original, c'est le plan original. Puis dans nos cœurs, il y a quelque chose qui aspire à ça parce qu'on est créé pour ça. C'est le plan original. Mais à cause du péché puis tout ce qui s'ensuit, ben c'est pas comme ça que ça se passe. Mais ces moments d'humiliation, de notre amour, comme ici Pierre l'a vécu, c'est un rendez-vous incroyable avec le Seigneur. Un rendez-vous unique. Parce que oui, Dieu nous appelle des fois à être méprisé, à abandonner des hommes, comme lui a eu sa part. Ça fait partie de prendre part aux souffrances de Christ. Mais aussi, comme j'aime à le dire souvent, ça finit pas là. C'est là qu'on connaît Christ et la puissance de sa résurrection. C'est là qu'on apprend à dire comme Paul, je regarde ma vie là, les accomplissements que j'ai pu faire et tout ça, je regarde tout ça comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Sauveur. Il n'y a rien de plus important. J'ai eu ce rendez-vous-là, c'est le rendez-vous le plus merveilleux que j'ai, puis j'en veux encore. Pourquoi? Parce que c'est ça le vrai sens de la vie. C'est là que vraiment on vit quand on est en communion avec Dieu, même dans les pires moments. Wow! Oui, c'est un heure vraiment sombre, l'heure des ténèbres. Jésus est devenu péché pour nous à ce moment-là. Mais c'était le moyen même désigné par Dieu pour faire triompher Jésus qui est la lumière de la vie. N'est-ce pas l'espérance que ça nous donne dans n'importe quel moment de ténèbres? On a un cantique qu'on chante, c'est « Je vis d'espérance ». Hey! Êtes-vous là? Ah, c'était mercredi. On a chanté avec M. Lalonde! Hey, M. Lalonde! Mais il était un peu mollo, je trouve. Il a fallu un peu le piquer d'un côte, là, pour le grinquer un petit peu, là. Tu sais, il manquait un peu de... En tout cas. Mais il était quand même pas pire, là. Mais je l'ai déjà vu rouge tomate, puis... Tu l'as sûrement vu dans ses plus... crinqués moments de « Je vis d'espérance ». Oh, mais tout ça, dire... C'est quoi ça veut dire, je vis d'espérance? Ça veut dire que il n'y a pas de situation trop difficile, il n'y a pas de trou assez profond où est-ce que la main de Dieu, la main de sa grâce ne peut pas aller nous rechercher puis nous retirer. C'est ça que ça veut dire vivre d'espérance. C'est que l'histoire n'est pas finie tant que Dieu est là.
Amen.
Puis Dieu est toujours là. Il peut nous délivrer de tout mal. Alors pourquoi ne pas l'invoquer, ce Dieu? Pour la situation dans laquelle vous pouvez être, ou peut-être quelqu'un que vous aimez, peu importe comment Dieu dirige, qu'on réponde à ce que Dieu nous révèle sur lui-même dans ce passage d'Écriture avec ce qu'il fait dans notre vie. Merci Seigneur pour ce temps. C'est un temps où est-ce que, Seigneur, c'est vraiment une terre sacrée, c'est la passion, c'est les moments les plus spéciaux, c'est l'accomplissement des Écritures, de tellement d'écritures, la croix et tout ce qui va autour, Seigneur. Merci qu'on a pu jeter nos regards dans la parole de vie ensemble après-midi. Je prie que ça porte du fruit dans nos vies, que ces leçons ne soient pas juste des leçons. Que tu nous transformes, Seigneur. Que ta parole vivante porte du fruit dans nos vies, Seigneur. On vient à toi, on t'invoque. Merci que on le dit des fois, sans toi on ne peut rien faire, mais merci que tu nous l'enseignes aussi, comme tu l'as enseigné aux disciples. Qu'on n'ait pas peur de ça, Seigneur. Qu'on désire ta communion, la communion de tes souffrances, de ta grâce, plus que tout le reste. Et Seigneur, ça va nous suffire. Aide-nous, Seigneur. On croit. Ah, mais honnêtement, viens au secours de notre incrédulité. On a peur de souffrir. Mais Seigneur, on ne veut pas vivre dans la peur, on veut vivre dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous. C'est en son nom qu'on te prie et qu'on te remercie. Amen.